Barbra Streisand.
Libre Radio, la radio qui bouge les lignes et qui renverse les situations. Podcast, newsletter, et pire encore sur www.libradio.org.
Donc RIA, c'est Rencontre Internationale Anti-Autoritaire, si jamais. On essaie de lier des thématiques d'actualité avec l'anarchie, avec la philosophie anarchiste. Et d'où un petit peu la volonté, un peu de temps en temps dans les questions, d'élargir un petit peu le sujet de qu'est-ce qu'un monde sans frontières, qu'est-ce que ce serait un monde idéal, anarchiste, se poser la question de la frontière en fait. Est-ce que c'est utile dans notre monde ou dans un monde qu'on recherche, qu'on aurait envie, un monde idéal? Et ben, les camarades qui sont là ont bien pu nous expliquer à quel point en fait les frontières avaient des points négatifs. Et on pourrait essayer de réfléchir aussi, est-ce qu'elles ont vraiment un but? Qu'est-ce que ce serait un monde sans frontières en fait? Est-ce qu'il y aurait des états-nations? Qu'est-ce qu'il y aurait entre les différents endroits? Voilà. Tout plein de thématiques qui ont déjà été abordées. Voilà.
C'est de l'apathie.
Hein?
On est apathique. Ouais, bah ouais,
c'est le truc.
Je vais dire, même si je dois dire les
pardon.
C'est pas grave. Déjà, savoir ce que serait un monde anarchiste idéal. J'aurais formulé un peu autrement. Quel monde on veut, et est-ce que l'anarchisme en tant que philosophie pourrait répondre à ça? Est-ce que c'est une des philosophies politiques qui répond à ça? Moi, je pense clairement que oui. Mais qu'est-ce qu'on veut comme monde, surtout? C'est l'anarchie, on avait déjà parlé. C'est quand même l'organisation des gens, et l'anarchie ne dit pas ce qu'elle sera. Elle donne les possibilités à ce qu'un monde, ou à ce que des gens, un système de vie sociale collective, sera, c'est les gens qui le détermineront. Donc on ne peut pas savoir, nous, ce que serait le monde idéal anarchiste. Ce serait un peu prétentieux, mais pourquoi on se bat pour l'anarchie? C'est pour que les gens... on se bat pour les libertés individuelles, dans le cadre de construction sociale, collective, de principes de vie, quoi. Et moi, ma réponse à l'idée des nations, des États et tout ça, il est bien évident que l'idée de la nation, ou du pays, ou de tout ce qu'on peut l'appeler comme on veut, elle est aberrante. Aujourd'hui, on parle par exemple, de circuits courts de distribution, parce que c'est vrai que c'est mieux d'éviter de transporter les choses. Par exemple, le Suisse de Genève, enfin, on va pas prendre Genève parce que c'est la Suisse, c'est un État. Je vais prendre la France, un pays qui est à côté. Le Savoyard, il est plus proche de l'italien de Turin, par exemple, que du breton. Alors, quand on m'a dit produisons français, achetons français, c'est complètement ridicule dans ces termes-là. Et puisqu'il vaudrait mieux acheter italien du côté de Turin ou tout ça, plutôt que d'acheter des pommes de terre en Bretagne ou je ne sais trop où. Voilà, donc c'est un peu pour dire l'idée. C'est que, en fait, ça n'a pas tellement de sens, ces frontières. C'est des frontières d'intérêt politique, c'est des frontières d'intérêt de pouvoir économique, où les gens se sont dit, on s'est dit à un moment, ça nous appartient, il y a eu des guerres, même pour avoir des machins comme ça, du sang versé encore pour déplacer des bouts de pointillés sur une carte, quoi. Et l'idéal, ce serait pour moi, c'est l'abolition systématique des frontières, puisque ça permet à tout individu de... Enfin, il y a quelque chose qui... Je ne sais plus qui avait dit ça, mais ton pays, quelque part, c'est l'endroit où tu as les pieds. C'est pas l'endroit... c'est ça, quoi. On vit à un endroit et on est légitime dans tous les endroits. L'organisation sociale, aujourd'hui, sur la planète des gens, elle pourrait se faire... Par la fédération, par le contact, par la discussion entre tous les gens sans tenir compte de l'idée d'appartenance à un pays ou à une nation. On a tous des cultures qui sont respectables, des cultures qui peuvent se mélanger, s'enrichir, qui peuvent, ça se voit dans tous les domaines, de la littérature ou de la musique, dans les arts, mais aussi dans l'appréhension du savoir-faire. Et c'est ce partage et ce savoir-faire, cette solidarité entre tous les gens, entre tous les gens qui savent, qui, parce que c'est quand même la population qui sait faire. Tous les objets qu'on utilise, c'est des gens qui le font. C'est pas des patrons, c'est pas des États, c'est des gens qui savent le faire. Et ce qu'on sait faire, on doit pouvoir le partager. Et la solidarité s'impose forcément avec, avec des gens, d'où qu'ils soient, quel endroit qu'ils soient. Que ce soit de la planète, dans le sens où s'il y a quelque part il y a une sécheresse, il y a des gens qui n'ont plus à manger et qui veulent. Il n'y a pas il y a aucune raison, du coup, d'être obligé de se déplacer, sauf ça. Mais si une solidarité internationale s'organise pour permettre aux gens de apporter ce qui est nécessaire, mais par solidarité, pas par souci économique, et on peut vivre largement. Autrement que ce que, et avec beaucoup moins de conflits que ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec, avec le système des États-nations.
Moi, je voudrais réagir que je trouve que les frontières sont partie prenante. En fait, pour moi, il n'y aurait pas de frontières s'il n'y aurait pas l'État-nation. Pourquoi ? Parce qu'un État qui est centralisé ou qui centralise son pouvoir, il a besoin de contrôle sur un certain territoire, un territoire donné. Et il a besoin, et vu que c'est la façon dont les sociétés aujourd'hui s'organisent, il faut pouvoir contrôler et avoir un contrôle fixe sur ta portion de territoire et empêcher que ton voisin vienne sur ton territoire. Et en fait, pour moi, cette notion est donc mettre de l'énergie sur défendre une ligne imaginaire comme ça que des gens ils ont décidé. Ça a seulement du sens pour la centralisation du pouvoir. Est-ce que dans une société, je sais pas, un peu plus fédéraliste, où d'un coup plusieurs communautés de vie, ou qu'il y a moins de centralisation dans des endroits ou dans des métropoles, ou des besoins absolus de pouvoir contrôler sur de vastes étendues de territoire comme c'est la France ou comme sont pas mal de grands pays. Voilà, la Suisse aussi, quoi. Est-ce qu'on aurait besoin de frontières ? Est-ce qu'on aurait besoin de gardes-frontières ? Est-ce qu'on aurait besoin de contrôler ce qui vient dedans, ce qui vient dehors ? Qui vient ? Qui n'a pas le droit de venir ? Moi, je pense que fondamentalement pas. Et c'est pour ça que pour moi, la lutte aux frontières, ça va... tu questionnes les frontières, tu questionnes le système des frontières qui est derrière, tout le mal que ça fait, mais tu es obligé, pour moi, de questionner... les États-nations qui sont derrière, et en fait qui légitiment ces murs invisibles et la force répressive qui l'entoure. Et c'est pour moi un peu la lutte un peu aux frontières, etc., est aussi très très liée avec une lutte anti-autoritariste, une lutte anti-capitaliste de façon générale, parce que potentiellement dans un autre, si t'as plus envie de frontières, t'as potentiellement envie d'un autre monde.
Je pourrais aller encore plus loin. Pour ce qu'on pensait à la propriété privée, l'abolition de la... Pour abolir la frontière, il faut abolir la propriété privée, parce que c'est... Que ce soit l'État-nation, l'État est le propriétaire de cet endroit, et donc la propriété privée, que ce soit pour ta petite maison, ton croton, un endroit, pour abolir la frontière, en fait, c'est un lien.
Moi, ce que je trouve intéressant dans la notion de frontière aussi, c'est qu'actuellement, lorsqu'on parle des défis climatiques, tout à coup, il n'y a plus tellement de frontières, parce que le soleil, le système sur lequel on vit, il n'a pas de frontières. Quand il y a un ouragan, il ne s'arrête pas à la frontière à Annemasse. Et puis, notre frontière, c'est à peu près l'atmosphère. Notre frontière réelle en tant qu'humain, elle est là. Et donc on est de fait dans une fraternité qui est un petit peu difficile à admettre par rapport au schéma qu'on a jusqu'à présent. C'est peut-être un peu idéaliste, mais quand il y a Tchernobyl qui pète, contrairement à ce que certains météorologistes français ont prétendu, le nuage ne peut pas contourner la France. Le nuage, il avance, et puis... on le voit aussi quand il y a la guerre, il y a cette sorte de grande fraternité des nations. J'ai trouvé ça assez fascinant de voir l'Europe tout à coup moribonde qui tout à coup se recrée. Et là, il y a vraiment quelque chose de très fort dans ces intérêts économiques de généralement producteurs d'armes qui vont enfin pouvoir en vendre encore un tout petit peu plus. Et par contre, quand un char russe tire sur une centrale nucléaire, ben là, les frontières, elles sont de nouveau disparues. Et puis le nuage, si nuage il doit y avoir, je ne pense pas que ce sera le cas. Mais néanmoins, on voit que là, la frontière, elle n'existe pas. Donc c'est une création très récente qui tient pas longtemps, finalement, à l'échelle du globe, à l'échelle de notre frontière atmosphérique. C'est une création très récente et puis qui est effectivement extrêmement mobile. Et enfin, j'aime bien, même si c'est un peu dramatique, ce the game, quoi. Un côté qu'on peut passer comme ça, finalement, assez... non pas facilement, mais disons, c'est une création. J'arrête là.
Je me posais la question par rapport à... Enfin, cette semaine, c'était le 8 mars, et je me pose la question si dans la lutte aux frontières, il y a aussi des luttes féministes, enfin aussi au sein de la lutte, il y a aussi justement des questionnements féministes à ce propos. Je pose la question parce que justement il y a tout un réseau de féministes transfrontières qui sont contre les frontières aussi, et je me posais la question à quel point il y avait des liens qui étaient faits ou pas, et surtout justement par rapport à, enfin, en tout cas ce réseau transfrontière dont je parle, il y a très peu de personnes qui viennent justement d'Afrique et d'Asie, et enfin voilà, du coup je me posais un peu la question sur cette thématique.
Pour celle qui est mon expérience personnelle et à la frontière, en fait, lutter à la frontière, c'est lutter contre un système qui met ça en place, tout d'abord. Et puis, il y a les personnes qui sont directement touchées par ça, par rapport auxquelles on a des privilèges. C'est pas parce qu'on a un privilège qu'il faut se sentir désolé pour tout le monde. Les personnes sans documents, du coup, très souvent, viennent d'un système de violence très fondé. La déconstruction ou la mise en cause des questions comme le féminisme, comme la violence ou autre, ou comme l'autorité, comme l'antimilitarisation ou l'anticapitalisme, sont pas des désirs. Du coup, un refuge autogéré qui a été mon expérience à la frontière sur le terrain, on peut dire entre guillemets, c'est pas un lieu safe. Point. Donc la lutte féministe qui peut être menée à l'intérieur de ces lieux doivent, à mon avis, commencer par ça. Donc créer des lieux safe. Réussir à développer un discours, surtout avec les personnes, les premières victimes, en fait, de tout ça. Et puis après, dernièrement, en fait, j'ai rencontré un groupe qui s'est créé sur 20 000, les NPO, les Clintas, qui sont super fortes, super fortes. Il y a eu même des événements, je ne sais pas si quelqu'un en sait plus, moi, j'ai juste entendu des racontes, des gens qui m'ont raconté. Il y a eu même une manifestation non mixte, en mixité choisie, sur Vintimille. Donc en vrai, c'est pas quelque chose qui n'est pas, mais qui est très difficile, très très difficile à expliquer ou autre que dire. C'est possible faire quelque chose, il faut avoir beaucoup d'envie. Perso, je pense pas que avoir ce genre de parcours avec des personnes qui sont de passage, c'est possible. Si tu croises quelqu'un que pour 2-3 jours, du coup c'est compliqué de dire non, mais en fait il ne faut pas que tu me parles comme ça, je n'ai pas plus d'idées pour toi. Donc on parle vraiment de base, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont de passage, qui sont bien encadrées et bien aussi ouvertes à la mise en cause de certains comportements.
Enfin, Je peux juste compléter la question, c'était pas vraiment à l'intention des personnes de passage, mais plus par rapport au réseau, nos borders et du coup des liens de solidarité ou de donner de l'écho finalement à la lutte, plus dans ce sens-là en fait, où je peux finalement, étant donné que le mouvement est transversal, les conclusions par rapport au fait que les frontières, eh ben, justement, il faut les abolir, y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là aussi, et donc plutôt dans ce sens-là, on va dire pas stratégique, mais on va dire de s'appuyer, de se soutenir, mais pas vraiment à l'intention de ce qui passe, pas du tout dans ce concept.
Il y a beaucoup de personnes sur la lutte que j'ai connue personnellement, et évidemment, il y a toujours eu la volonté d'apporter un discours, la lutte aux frontières doit aussi être féministe, mais au niveau réalistique,
Tu connais si bien. Ok. En fait, il y a pas mal de réseaux féministes qui s'organisent à cette frontière-là. Il y a eu des tentatives en fait de mise en place de réseaux pour aider spécifiquement les femmes à se déplacer, qui ont marché certains. Actuellement, il y a des militantes sur toute la longueur de cette frontière franco-italienne qui se rencontrent et qui se réunissent. Mais concernant le lieu, le point précis dont on parle, Briançon et les refuges autogérés en Italie, en fait, on a beaucoup parlé de féminisme, on s'est beaucoup embrouillé. Les militants italiens ne sont pas d'accord avec les militants français. Mais une chose que je voudrais appuyer, c'est qu'en fait, la majeure partie des gens qui travaillent dans ces refuges autogérés et qui font vivre cette lutte à la frontière-là, c'est des meufs. Parce que c'est un truc, c'est vrai que c'est un truc où il faut faire, enfin, faut tout le temps s'occuper, faut faire le ménage toute la journée, faut des tâches en fait qui semblent ne pas être assez dignes, je pense, pour certains militants plus masculins, on va dire. Et ça, c'est des débats qu'on a eus, même en France, il y a des groupes politisés qui ont dit, ouais, mais la lutte aux frontières, c'est un truc de meufs. Et qui l'ont expliqué, qui étaient là, oui, bah oui, c'est faire du care, du coup, forcément, c'est plus simple. Mais faut voir qu'aussi, il y a eu aussi des liens avec des mouvements trans-border, t'as dit, plus larges. Notamment, il y a eu cette manifestation à Nice, et puis il y a ce mouvement qui part aussi un peu de la Suisse pour la reconnaissance. Pour la reconnaissance des spécificités de l'exil qui concerne les femmes, et de dire aussi qu'on dit tout que les femmes, c'est les personnes qui migrent le plus dans les populations au niveau mondial. En fait, il y a 60% des gens qui se déplacent pour s'établir ailleurs. On est souvent lié à des conflits, c'est des femmes. Donc, par rapport à cette zone-là, à Briançon actuellement, il y a un lieu qui est occupé, qui est spécifiquement pour les femmes, ou en tout cas sans hommes cisgenres, et qui se veut un lieu qui peut accueillir des femmes migrantes, mais aussi en fait pour les personnes qui travaillent là, pour avoir un peu des temps de pause. Et après, c'est vrai que ces réseaux féministes, je pense, doivent se mobiliser pour tout le monde. Après, c'est une stratégie politique de dire, ah ben, on va regarder spécifiquement la situation des femmes. Mais il faut savoir aussi que les femmes en exil, souvent la route, elle est très complexe. Parce qu'elles sont souvent dans des réseaux de passeurs. Elles sont rarement libres dans leur voyage. Elles ont plus de chances d'être agressées en fait pendant qu'elles voyagent. Parce qu'il y a aussi des. Il y a un peu aussi. Moi j'ai rencontré des hommes cisgenres qui arrivent en Europe sans documents, qui avaient fait des traversées, qui me disaient oui, mais en fait les femmes, cette femme, ok, elle vient de mon pays, mais elle a rien à faire là, elle devrait pas migrer. Donc c'est vrai que quand on est au jour le jour dans ce travail-là de soutien et d'accueil de tout le monde, c'est assez compliqué de porter ces thématiques-là. Après, dans ces refuges-là, on a toujours dit que on était contre le sexisme, qu'on était contre le capitalisme, qu'on était contre le racisme, mais tout en essayant de pas, en fait on va pas passer 4 heures à convaincre quelqu'un qu'on reverra pas, et on essayait plutôt de, bah en fait plutôt de limiter la violence qu'il pouvait y avoir et d'amener un peu les gens à partager des choses. Et en ça, c'est aussi des lieux d'échange assez, assez intéressants. Et puis après, il y a des réseaux... Enfin, par exemple, moi, je fais partie d'un collectif où on essaye d'être joignable pour des personnes LGBT en exil en Europe et qui auraient besoin de soutien. Et l'idée, c'est quoi? C'est de que c'est des réseaux qui existent, des réseaux de solidarité qui existent, et c'est d'ouvrir ces réseaux de solidarité ou de donner l'accès de ces réseaux-là à des personnes qui sont en exil en Europe. Et ça pose des questions intéressantes. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut aller se marier au Liban, ce serait super. Voilà. On cherche, on a besoin comme ça de personnes qui veulent s'engager. Et en fait peut-être ça pourrait être une idée à faire avec des réseaux féministes, c'est-à-dire de volontairement pas attendre que les personnes viennent aux événements féministes, mais plutôt d'apporter les outils, d'ouvrir ces milieux-là au maximum. Et oui, bah, on n'a pas la même vision parce que je pense qu'on est...
C'est juste que... Je pense que vraiment la réflexion politique qui est faite en France et qui est faite en Italie est différente de sens où en France. Je pense qu'on l'a fait depuis plus longtemps.
Oui, c'est ça. C'est les milieux militants en fait en Italie et ces milieux-là avec qui... Il y a eu cette rencontre un peu assez riche, mais en fait rapidement aussi des constats de qu'on s'organise pas pareil, qu'on n'a pas la même culture politique. Et par exemple, moi je me suis vraiment embrouillée avec des femmes militantes qui me disaient, mais moi je suis anarchiste, je suis pas féministe. J'étais un peu là, oui, mais en fait pour moi ça va dans le même sens, ça va vers la liberté, vers lutter contre les oppressions. Et les personnes disaient, oui, mais c'est un truc de victime, moi je suis pas une victime, je suis un guerrier. Parce que la lutte en Italie, c'est la guerre, faut être tout le temps là, faut être tout le temps prêt. Faut pas être fragile, hein.
Pas partout, mais c'est vrai qu'il y a eu justement, pour ça, des dans la réalité. Parce que oui, ce n'est pas le safe, et du coup, ça a ramené à des grosses différences politiques que le moment où il y a des violences. De tout type, bah justement il y a des clashs et des soutiens qui ne sont pas là. Donc oui, c'est très compliqué en fait de mettre en place. La plus grosse limite, c'est de réussir à réfléchir et mettre en place. Bah, sur la question féministe, il faut plusieurs années d'expérience et de faire rentrer certaines valeurs, quoi.
En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en Italie, les réseaux féministes, même les réseaux LGBT, ils sont pas du tout en lien avec les réseaux anarchistes, anti-autoritaires. Enfin, en tout cas, pas à Turin, tu vois.
Mais un peu dans toutes les villes, c'est aussi.
Il y en a, il y a des villes où il y a plus.
Je sais pas, moi, je connais la réalité de Turin et Milan. Je peux parler juste de ça. Du coup, c'est pas toute l'Italie, mais. Ouais, c'est un gros discours. C'est juste qu'au niveau politique, il n'y a pas les mêmes visions. Car, bon, un des premiers, c'est Archie Gay. Et après, dernièrement, il y a eu Ulla Di Meno, qui sont cool. Mais du coup, avec effectivement des valeurs aussi anarchistes, c'est pas la même vision, donc de pratique surtout. Et donc ça n'a jamais mis en question le fait de ne pas réussir à se rencontrer pour avoir mis des limites politiques, à faire en sorte que en fait, c'est ça, c'est pas trop mis en question. Et fait propre la lutte féministe aussi. Mais bon, je pense que. Je sais pas.
C'est bon, je suis satisfaite avec tout. J'entendais pas autant.
Pour revenir sur la question de la frontière, on était dans des réflexions plus philosophiques avant, et ça aussi, en fait, c'est aussi un travail très intéressant qui a été fait par surtout des amis en Italie, de vraiment se réfléchir sur la question de qu'est-ce que fait la frontière, et de porter aussi un peu ce message, de dire que la frontière, elle est, ben, un peu ce que tu disais, la frontière, elle est mobile, je sais, c'est toi qui disais ça, non? Ouais, que la frontière, elle est mobile, parce qu'en fait, quand quelqu'un qui n'a pas de document se fait arrêter par un flic n'importe où sur le territoire, c'est la frontière en fait. C'est le... Parce que la frontière, c'est une séparation. C'est le fait de faire une séparation entre les personnes. Et c'est en fonction des papiers, mais c'est pas non plus qu'en fonction des papiers, puisque à la frontière à Briançon, et en fait aux frontières internes en Europe où des contrôles maintenant sont rétablis, sans. Enfin, ce qui va à l'encontre de l'espèce d'illusion qui est l'espace Schengen, les personnes qui sont arrêtées, c'est des personnes qui n'ont pas la peau blanche et qui sont contrôlées à chaque fois. Et donc c'est, en fait, c'est un, j'ai l'impression que c'est par là aussi une légitimation de d'un racisme d'État et de, enfin, du racisme de l'Europe en général, comme enfin, c'est un peu, moi j'ai l'impression que ces frontières là ça montre que c'est une des valeurs cardinales de l'Europe, des États-nations européens. Enfin, des États, peut-être, plutôt que de mettre en cause les personnes. Et du coup, c'est, pour moi, c'est un peu tout ce qui va opérer une séparation, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que les mouvements anarchistes doivent s'engager aussi dans les luttes pour les droits des minorités. Parce que, en fait... C'est là où en fait on arrête de départager entre eux, une majorité, une minorité, quelle pratique, quelle autre pratique. Non, c'est des personnes qui exercent leur liberté, et de toute façon il faut soutenir ça. Et pour moi, c'est, moi j'ai l'impression que, en tout cas dans ma réflexion politique, lutter contre les oppressions, contre le fait d'être contrôlé par un État, c'est une base, mais c'est pas le haut. Enfin, c'est pas mon objectif, c'est une base de réflexion. Et par là-dessus, je construis avec d'autres choses et d'autres idéologies. Et j'ai l'impression que, par exemple, chez des personnes en Italie, je voyais, non, mais nous, c'est ça d'abord, c'est l'anarchisme, et c'est autre chose. Parce que nous, notre but, c'est ça. Et tout ce qui sort de ce cadre-là n'a pas d'importance, parce que de toute façon, quand on aura atteint l'anarchie réelle, il n'y aura plus de catégories, il n'y aura plus d'oppression. Du coup, pas besoin de faire attention à ça maintenant.
Après, voilà, c'est le point de vue de très peu de personnes.
Mais des personnes avec du pouvoir. Très peu de personnes avec beaucoup de pouvoir.
Pour toi, c'est le cas de l'analyser de cette façon. Et ici, c'est 5 personnes. Personne, je pense, il la pense comme ça. Dans une lutte de 3 ans, dans une enquête, il y avait plus de 190 personnes. Du coup, oui, c'est vrai, il y a des personnes qui s'opposent beaucoup et qui puissent penser ça. Du coup, parce que c'est l'autorité. Et si tu parles d'un lieu contre l'État, déjà, mais... Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas fait partie tout de suite de la lutte contre les frontières, mais c'est quelque chose qui a bien été pris en compte, surtout dans les dernières années, enfin, dans les derniers 2 ans, par rapport à avant. Et il n'y a jamais eu de lien, même si cette lutte a été faite surtout par des femmes. Je pense que le truc qui a été le plus difficile, c'était déjà réussir au niveau quotidien à avoir affaire à des gros machos, enfin, avec des gros mecs. Et aussi, probablement, l'expérience et les réflexions des personnes qui étaient à l'intérieur de cette lutte étaient assez pauvres, tout simplement. Et bah, après, on rajoute tout ce qui... Enfin, je ne veux pas excuser. Je veux juste essayer d'expliquer qu'en fait, Il y a des gens qui prenaient ça comme une problématique, le fait d'inclure aussi la lutte féministe à la lutte aux frontières. Mais il n'y a pas eu que ça.
Non, mais pas du tout, mais en même temps, c'est aussi ce que tu dis, et c'est assez vrai. De penser qu'un refuge autogéré, ça va devenir un espace safe, c'est complètement n'importe quoi, en fait, à la base. Et moi, je dis pas que... Enfin, que ça a vocation à l'être. Je crois pas ou plus à la question d'un espace safe. Ou je pense que c'est pas la seule manière, le seul outil du féminisme, en tout cas.
Un tout petit peu, moi je parlais vraiment d'un réseau en fait, déjà convaincu, enfin dans le sens je parlais pas forcément de tous les féministes, mais du coup de ce réseau de féministes qui se sont vraiment organisées autour du fait de l'abolition des frontières, et c'est déjà un peu une de leurs bases en fait finalement de fonctionnement, et du coup de me poser la question à quel point il y avait déjà des liens ou pas qui existaient, mais c'était plus une réflexion aussi de qu'est-ce qu'ils pourraient potentiellement faire en ce cas, sans parler de tous les féministes.
À part ça, franchement, juste pour y être allé récemment, ces personnes-là, on s'est jamais vu. Du coup, je pense que première étape, ça pourrait, parce que je pense que ce serait incroyable de faire des liens, comme tu dis. Et du coup, la première étape, ce serait que les gens se bougent là-haut, parce qu'honnêtement, il y a des moments où c'est vraiment difficile. Parce que, enfin, il faut s'imaginer que les seuls gens qui ont la foi de monter là-bas, c'est les militants et les touristes. Et en fait, il n'y a personne qui veut se taper des heures de voiture pour monter sur ce col enneigé. Et des fois, c'est un peu difficile, parce que du coup, clairement, on a des choses qu'on veut mettre en place, il y a grave d'idées et tout, et en fait, il n'y a pas du tout assez d'énergie. Et du coup, hein, je trouve ça trop bien que tu en parles, parce que... Bah justement, c'est des questions qu'on s'est pas mal posées récemment et qu'on a pas... Franchement, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on a eu pas mal ces discussions autour de ça et que ce serait trop bien qu'il y ait des personnes qui sont déjà déconstruites là-dessus, déjà sensibilisées à ça et en plus convergentes, enfin... comment on dit déjà ? Transsectionnelles ? Je sais plus comment on dit. Intersectionnelles. ce serait trop fou d'avoir ces énergies-là. Franchement, ce serait trop bien. Parce que c'est vrai que quand on est là-bas tous les jours, bah en fait, juste, c'est impossible de... faire en parallèle et oui, je pense que ce serait trop bien vraiment, et je pense qu'à 28 000 en l'occurrence ça doit se faire peut-être un peu plus, parce que ces personnes sont là-bas peut-être plus, et du coup il faut que physiquement les gens soient là, sinon il se passe rien et on a des idéaux mais on n'arrive pas à les mettre en pratique, j'ai l'impression.
Bonne
soirée.
Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est parce que le sujet, c'est de savoir si les mouvements féministes pouvaient agir sur les lieux de passage, sur les luttes no border et tout ça.
En fait,
c'était quoi la question et les réponses? C'est pas jeune, honnêtement, je me suis embrouillé là, parce qu'il y a eu plein de choses entre les anarchistes qui disaient mais c'est la liberté de chacun, donc on n'a plus besoin de parler de féminisme. Enfin, je suis parti un peu là.
La question initialement c'était par rapport à la lutte aux frontières et par rapport au fait qu'il y a aussi des réseaux communistes qui luttent dans ce sens-là pour abolir les frontières, et je me posais la question à quel point ces réseaux étaient en lien ou à quel point l'urgence de la. Des situations font que chacun travaille aussi dans son domaine, et du coup à quel point les liens existaient ou pas. Tenez que ce réseau dont je parle, des transfrontières, il est très présent en Amérique latine, mais justement il manque énormément en fait de liens avec notamment l'Afrique et l'Asie. Mais donc du coup justement sur ces remises en question aussi des frontières, je me posais simplement cette question-là par rapport aux luttes aux frontières. Mais du coup effectivement, puisque le féminisme est très transversal et touche à tellement de domaines de la vie, et aussi dans tout le parcours d'asile, du coup, effectivement, on est rentré dans plein d'embriquements du féminisme là-dedans, mais la question initiale portait simplement sur la lutte no border et les transfrontières, si elles étaient en lien ou pas, en gros.
Moi, ça me fait faire le lien du féminisme avec. Par rapport à la question des frontières que tu posais tout à l'heure, le lien avec. En fait, la légitimité de quelqu'un, elle s'arrête là où s'arrête son corps. En tout cas sa sécurité physique qui ne doit en aucun cas être agressée et malmenée, mais ne s'étend pas plus loin qu'une maison, un canton, un état. Et... Voilà. Ça me fait faire ce petit bout-là.
Ça, tu veux dire quoi par « ne s'étend pas plus loin qu'un... »
Je voyais ça en... par rapport à... Bah, par contre, cette frontière-là, qui est la limite entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps, en fait. Je voyais vraiment ça en plus micro. Mmh.
Où est-ce que s'arrête la propriété, hein.
Voilà. Où est-ce que s'arrête la propriété, finalement, je suis arrivée à ce bout-là.
Un canton, un état, c'est une propriété.
J'ai pas compris, je crois.
Non, je parle. Je vais continuer. Un canton ou un état ou une région, c'est quand même la propriété. Il y a un pouvoir qui dit ça, c'est à moi.
Les
n'est pas légitime. En fait.
Les êtres vivants sur ce territoire-là sont aussi en quelque sorte la propriété de l'État. Enfin, c'est des choses que j'ai vues. Qu'on a tous vu. Enfin, moi, j'ai juste vu ces trucs sur la guerre en Ukraine il n'y a pas longtemps. Et ce truc, en fait, les hommes, ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas fuir. Et c'est qu'en fait, en temps de guerre, en fait, toi, t'es la propriété de ton état. Et puis tu dois aller te battre. Et puis tu t'appartiens même pas à toi-même, en fait. Et de réfléchir au territoire en termes aussi de nombre de personnes qui sont les sujets, qui sont les... C'est...
Mais est-ce que la lutte... Parce que quand on dit... donc il y a un État, il y a une frontière, il y a une armée nécessairement, parce que c'est ça qui permettra d'empêcher les méchants de rentrer, qui obligera les hommes à ne pas partir, parce qu'on veut les garder pour l'armée. Est-ce que la lutte anarchiste, elle n'est pas nécessairement pacifiste? Parce qu'actuellement, où il y a le truc très va-t-en-guerre, etc., pour sauver l'Ukraine, on va leur envoyer des missiles pour les aider, on va leur envoyer des milliards d'armements, etc. Et puis, du coup, ils seront plus forts. Le Parlement suisse, les partis de droite veulent augmenter de 2 milliards de francs suisses le budget de l'armement. Les partis de droite ont demandé aux socialistes d'arrêter la récolte de signatures contre l'achat des F-35. Et donc, il y a cette idée que non seulement les frontières vont nous sauver, mais que l'armée va nous permettre de nous sauver à l'intérieur de ces frontières. Et puis les voix pacifistes, du coup, on les entend. Il y a quand même pas mal de manifestations, mais est-ce que c'est pas aussi... Bon, ben, il n'y a plus de fusils, du coup, s'il n'y a plus de fusils, il n'y a plus de frontières, parce qu'il n'y a plus personne pour les défendre, et puis, voilà, bon, c'est très idéaliste, donnons-nous la main, et puis faisons une grande ronde autour du globe, hein, voilà. Mais disons, s'il n'y a plus personne pour acheter des canons, ben, ça pose déjà peut-être une base un tout petit peu... Trois petits points.
Bonne soirée.
Bah, la question du pacifisme, ouais, elle se pose. Enfin, ben, là, ouais. Moi, je discuterai après tout à l'heure pour comprendre ce que j'ai pas compris tout à l'heure, mais ça, c'est cool. Mais la question, ouais, pour moi, la question. Moi, en tant qu'anarchiste, je pense qu'il faut arrêter de servir les armées, il faut arrêter de servir les États, il faut essayer de. On se bat pour une transformation de la société. Donc il est hors de question de participer à un conflit qui n'est qu'un conflit des nations pour le profit de son aristocratie financière, quoi, toujours. Et c'est toujours les peuples qui se font assassiner et qui versent le sang, en fait. C'est leur sang qui est versé. Bah, on n'est pas bien nombreux à dire non à la guerre, mais effectivement, je pense qu'il faudrait... Le premier devoir d'un être humain, quel qu'il soit, c'est de se dire « je refuse d'obéir à une armée quelle qu'elle soit, à un État quel qu'il soit ». On doit être capable de pouvoir s'organiser, c'est le travail du militantisme, des militants pacifistes et anti-guerre, forcément. Et je pense que la grande majorité de la population mondiale ne rêve que de paix et de tranquillité. C'est quand même incroyable aujourd'hui de voir le bourrage de crâne qu'on est capable de faire sur des gens, par la peur et tout ça, en arrivant à les mobiliser pour être prêts à les se faire tuer, pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. C'est nos intérêts, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est pas servir ces gens-là. Et là, là moi personnellement, là, c'est comme à chaque fois que ça se passe dans l'histoire, ça s'est fait plusieurs fois. Et ben, en tant qu'anarchiste, je pense que notre combat, enfin moi mon combat, c'est le mien, je ne vais pas parler au nom d'autres anarchistes qui peuvent le penser un peu différemment, mais c'est de refuser de servir tout État, toute nation, tout militaire, toute organisation militaire. Parce que c'est pas mon truc, c'est par contre de participer à tous les éléments de solidarité qui pourront me permettre de survivre à cette connerie-là, oui. Et aujourd'hui, il y a des copains anarches qui vont essayer de porter des trucs à des anarchistes ukrainiens, mais à des anarchistes ukrainiens, pas à l'armée ukrainienne et tout ça. Alors je sais pas où s'en est ce projet avec un certain groupe, mais j'espère que si ça marche, ils ont bien raison de le faire. Mais il faut bien savoir que c'est de l'aide et c'est de l'entraide et de la solidarité. Par contre, la non-violence, pacifisme et non-violence, c'est deux choses différentes. Devant une agression d'un pouvoir et d'un État, au bout d'un moment, comme c'est fait en Espagne ou en Russie ou un peu partout, en Ukraine d'ailleurs, en 21, il y a un moment, s'il faut prendre des armes pour défendre sa liberté, mais là, la liberté, pas un État ni un système économique qui massacre, la question est entièrement posée et ça, moi, personnellement, je me dis que j'aimerais pas, mais je me dis peut-être ça peut être nécessaire de faire. Donc l'approche, elle serait plutôt là. Mais au moins, on est bien confronté à ce problème. On parlait des frontières et tout. C'est bien ce problème encore des frontières, des nations et des États qui nous poussent à chaque fois à la guerre pour défendre des intérêts privés. Et pour parler de la propriété privée, la seule propriété privée qu'on a, c'est celle d'usage, c'est-à-dire pour soi.
À durée déterminée.
Ouais, tant que t'en as besoin, après quand t'en as plus besoin, ça peut, c'est quelqu'un d'autre qui l'a qui dit, bien sûr, moi ça me semble, ça me va encore.
Je pense que
c'est encore
Est-ce qu'on clorait la discussion doucement? À moins que d'autres personnes auraient encore rajouté quelque chose.
Nous on fait la révolution.
Bon, c'est le bon foie, c'est la bonne foie, c'est maintenant. On va y arriver. Ah, voilà. C'est clair que la violence a comme base, je pense que c'est la non-violence devrait être la façon de vivre. Après, de l'autre côté, on est en face de quelque chose de tellement grand et puissant et violent. Que à partir d'une simple manif à effectivement une période de guerre, il y a des moments où pour arriver à quelque chose de concret, il va falloir effectivement répondre à la violence avec la violence. Comme protéger soi-même, quand tu es effectivement face à un flic qui veut te taper, c'est tout, et te casser. Du moment où en fait tu as envie de défendre un territoire où il y a des gens qui veulent tous ensemble vivre en tranquillité, sans guerre, sans militarisation et ou sans frontières. Parce que quand même la frontière, ce qui ramène, c'est la violence d'État. La Légion étrangère, les Alpins, les opérations sentinelles d'un côté ou de l'autre, l'exercitation Volpe Bianca qui est maintenant en train de se faire. Pendant un mois, tous les ans, ça s'appelle, ça s'appelle Renard Blanc entre les forces spéciales de l'armée américaine, italienne et française. Sur la frontière.
C'est une semaine, deux semaines par an?
Non, c'est un mois.
C'est un mois?
Donc, ils s'entraînent
Ils font des entraînements, en fait, ils jouent à la guerre dans la montagne.
C'est ma première fois cette année, c'est la première fois que j'ai vu un char armé sur la route. Un char armé, quand même. Et du coup, oui, du moment où on est face à ça, on peut mettre en discussion une pratique pacifique ou de résistance passive. Parce que le but, c'est pas faire mal à des gens. Quand tu fais n'importe quoi. Après, si c'est quelqu'un en fait qui a choisi la violence et la défense du pouvoir pour comme métier de sa vie, chacun faire un peu voir effectivement qu'est-ce que ça peut, si ça peut ramener effectivement à un objectif. sans tomber, ça c'est surtout dans les dynamiques de ville, sans tomber sur la provocation, parce que c'est tellement facile de donner ça. Il faut que les gens pendant 10 ans en ferme. Ouais.
Top. Alors merci beaucoup et n'oubliez pas qu'il y a un... venez manger des pizzas samedi à Agnières et il y a des bons concerts le soir. Il y a des flyers là-bas et prenez-en.
Merci.
Et il y a des bouquins aussi si vous êtes intéressé.